My God, l'émission décomplexée sur des séries, présentée par Éric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.
Bonjour et bienvenue dans Oh My God. Ici, chaque mois, on assumera nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. On essaiera surtout de se souvenir que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Dans cette première émission, il sera question de The Crown, Melrose Place, The Morning Show, les frères Scott, Tchernobyl, Spartacus peut-être, pas sûr, et une bonne dizaine d'autres séries auxquelles vous ne vous attendez pas forcément. Bon, en revanche, vous en doutez, hein, je vais pas faire ça tout seul. J'ai demandé à quelques potes de me rejoindre, qui sont en train de me filmer, donc je suis totalement détendu. C'est très agréable, les gars. Hein. On va refaire la radio comme ça, c'est parfait. Bonjour, les amis.
Bonjour.
Alors, les téléspectateurs de C8 la connaissent pour son franc-parler et ses coups de gueule.
Ah, c'est moi, ça?
On sait pas. On sait même pas qui tu es, j'ai encore rien dit. Ceux qui la suivent sur Twitter savent sa passion pour Friends, mais elle est loin d'avoir tout dit sur les séries.
Friends, c'est la vie. Bonsoir. Émilie. Enchantée.
Émilie, salut. Elle est auteure, animatrice, metteur en scène, photographe, actrice. Enfin, en gros, elle sait tout faire, même s'emporter pour défendre ses séries préférées. Avec elle, on peut vraiment parler d'éclectisme et ça devrait se vérifier dès aujourd'hui, a priori. Virginie de Closade, bonjour.
Bonjour à tous. Hashtag relou, c'est moi.
Il est rédacteur en chef et il a déjà un sacré jeu de jambes en matière de podcast puisqu'il en a animé une bonne dizaine. C'est pas le dernier, ni pour la déconne, ni pour les soap-opéras.
Non, je suis le premier pour les soap-opéras, t'as de la chance. Bonjour Eric.
On dit pas ton nom du coup?
Non, c'est le mystère.
Non, tout le monde sait qui tu es. Le mec, c'est une star. C'est bon, j'ai fait du podcast, les gens, la voix, ils me reconnaissent. Bon, c'est Fabrice Dupreuil. Il est auteur et spécialiste en séduction. On pourrait penser que c'est l'élément calme et posé de l'équipe, mais il faut le voir danser dans son salon devant le générique de Game of Thrones pour vraiment le connaître. Céline Niederhofer, bonjour.
Bonjour, c'est pas très bien de balancer, mais oui, je vais rester calme aujourd'hui.
Ça va les amis? Tout le monde est en forme?
Très bien.
Vous êtes prêts?
Et toi?
Et vous, sans déconner.
Je sais pas,
Les gens nous ont vus sur les réseaux.
Les gens savent que j'ai les photos de toi, dossier?
Ah, ça va.
Les gens espèrent que t'as des photos de dossier.
Moi, je propose qu'on commence direct et qu'on se parle série.
Oh my God.
Alors, avant de commencer, je vous donne quelques règles du jeu, quand même, pour qu'on ait un petit cadre et qu'on s'y retrouve. Alors, en un, ici, on se juge pas.
Mmh. Un peu, quand même.
Mais on peut se moquer.
Ah,
je vous invite même bien, à vous moquer un peu. On respecte l'intégrité physique, morale de ses petits camarades, mais on se moque, on y va à fond.
Physique?
Dans le respect. Bah, physique, c'est de la radio, en même temps, personne ne verra. Mais... Règle numéro 2, les spoilers sont autorisés pour toute série sortie il y a plus d'un an. Donc là, faites pas vos surprises parce qu'on en a un peu parlé avant, en vrai. Donc on s'est mis d'accord?
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est une décision clivante, hein, on s'en rend bien compte, mais c'est pour nous détendre, en fait, qu'on puisse vraiment aller sur les débats sans être dans une espèce de chasse aux spoilers permanentes qui nous gonfle tous, on peut se le dire.
Ouais,
merci pour ça. En 3, on entendra par série tout ce qui est objet sériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra même passer de dessin, parler de dessins animés, RuPaul Drag Race, de...
Star Wars. Qu'est-ce
que tu cherches les problèmes?
Star Wars, dès le premier numéro. Quoi.
Parce qu'il y a une différence entre série et collection, par exemple.
Moi, je propose une réponse à cette question sur la prochaine émission. J'en ai aucune idée. Ça va, comme vous voulez, en fait.
On va s'en passer, en vrai. Tu sais quoi, il y en a plein qui s'en chargent pour nous,
ouais,
c'est ça.
Je pense aussi. Mais donc, on peut aller sur du dessin animé. Pourquoi pas sur du documentaire,
hein,
Grégory, c'est pour moi, c'est sériel. Donc...
Je suis assez d'accord. Et un jour, il faudra qu'on parle de Peppa Pig. C'est pour une autre émission.
On est sûr.
Ok, quelqu'un prend
gros,
des notes.
Il y a un gros problème dans la façon dont cet enfant parle à ses parents dans Peppa Pig, mais ça, on le gardera pour une autre émission. C'est un teaser.
Alors, ouais. Fabrice a l'air d'accord. Moi, je ne sais pas de quoi on parle.
Mais moi, j'ai pas d'enfant, donc.
C'est ça.
Moi non plus. Mais je regarde.
Oh merde.
Spécialiste.
Ça va bien se passer. Moi, je propose qu'on démarre tout de suite avec ce que vous avez adoré depuis la rentrée.
Oh my God.
Chaque fois, vous allez nous révéler vos derniers coups de cœur, que ce soit une série nouvelle ou une série que vous venez de découvrir 10 ans après tout le monde. Hein, on va pas être trop regardant là-dessus. Qui se lance en premier? Milly, elle a l'air chaude bouillante. Milly, tu as gagné.
Je savais que ça allait tomber sur moi.
Allez.
Moi, il y a beaucoup de séries que j'ai vraiment, vraiment aimées.
Il va falloir faire des choix et tu nous parles de ta première série coup de cœur.
Alors, ma première série coup de cœur, j'ai la chance... En fait, non, on va pas se mentir. J'ai pris Apple TV+, juste pour le plaisir de revoir Jennifer Aniston dans une série, à savoir The Morning Show, avec Reese Witherspoon et Steve Carell. Le pitch de départ, c'est grosso modo Steve Carell et Jennifer Aniston présentent le morning show. Lui est accusé de d'attouchement, donc il est viré de la série et donc Jennifer Aniston se retrouve à présenter le morning show avec Reese Witherspoon. Pardon, j'essaye de parler trop vite.
Non mais elle a un nom trop compliqué.
Je fais.
Voilà, avec Reese, on va rester Reese.
Il y a Céline Niederhofer et Reese Witherspoon.
Ouais, c'est ça.
Cité de noms que je connais.
Alors si je peux choisir, je préférerais avoir Reese Witherspoon en face de moi que Céline. Même si je t'aime vraiment beaucoup.
T'auras juste plus de mal à l'appeler, quoi.
Moi, je l'appellerai pas. T'inquiète pas. Donc voilà. Donc le pitch de départ, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série, au-delà du fait que ça parle de sujets vraiment sociétaux, c'est que on ne reste pas que sur le MeToo. Donc bien sûr, il y a l'après MeToo, MeToo vu aussi du point de vue du mec, parce que le mec est accusé. On ne sait pas encore dans les premiers épisodes si c'est vrai, si c'est pas vrai et tout ça. Et après, on se déporte un peu sur Jennifer Aniston, ma passion, hein, passion Friends, tout ça.
Alors on reviendra sur cette passion.
Non.
Si on va revenir.
Obligé.
Moi, ouais. J'ai peu de choses à dire sur cette série que je n'ai pas vue.
Je sais ce que tu vas dire.
J'ai plein de choses à dire sur Jen que j'adore par ailleurs. Tu nous regardes Jen, mais quand même.
Tu penses vraiment que Jennifer Aniston, elle est en train de Marc, ouais.
Ben non, elle est chez son chirurgien, je crois là.
Oh, mais c'est vulgaire.
Alors on avait dit qu'on pouvait pas être physique, parce que là, franchement, je vais le frapper.
Non, bien. Partons de l'intégrité physique, celle de Jen, moi je trouve que
non, on touche pas. Alors, partons du postulat que les Friends, on ne les touche pas. Donc, Jennifer Aniston, elle est parfaite,
non, mais
elle
surtout,
n'a pas fait de chirurgie.
Alors là, là, c'est pas possible, mais surtout, c'est plutôt bien acté parce que la façon dont c'est fait quitter. Monica, là, Geller, comment
oui.
Ça s'appelle?
Ah oui, Courtney Cox.
Là, t'es quand même sur
oui.
Du drame.
Non, mais là oui, je suis d'accord.
Sur, tu vois, c'est non, un dossier très
important. Elle ressemble à tout le monde sauf à elle-même.
Voilà.
Donc, ça, on est d'accord. Jennifer Aniston, bon, on en parlera plus tard.
C'est notre concu préféré,
non.
Merde.
Moi, j'adore, elle a toujours tiré avec la
tête. Qui a vu la tête de Jennifer Aniston dans.
Attends, on
n'avait
pas dit qu'on parlait de Céline.
Donc là, tout le monde lève la main sauf Céline. Donc, pour ceux qui l'ont vue, est-ce que cette personne est désormais plastifiée?
Non.
Non. Elle est américaine, j'ai envie de dire.
Elle est tirée à quatre épingles, on va dire.
Arrête!
Alors,
c'est parce que je t'aime que je reste.
Non, mais
sinon je partirai devant cette
Son visage
cette
bouge par morceaux. Non, pour ce qui bouge, tout ne bouge pas. Et pour ce qui bouge,
je
c'est
retire,
par plaque, en fait.
Je ne
c'est
t'aime
compliqué.
Plus. Et je vais rester pour Céline qui n'a rien dit, puisqu'il n'a absolument rien vu de Morning Show, ni les affiches, ni quoi que ce soit. On est d'accord.
Non, c'est pas sa carte.
Tu vois, tu me pitches une série où il y a deux femmes sur Apple. La vérité, ce qui me bloque, c'est Apple. C'est pas les deux femmes.
Pourquoi?
Eh bien, parce que j'ai un téléphone de marque pas Apple.
Alors,
mais moi aussi, mais j'ai
alors je te contrecarre, mon chéri, parce qu'ils ont été très intelligents. Et pour les gens qui n'ont pas pris Apple TV Plus, non, c'est pas ça. C'est que je vais rendre service aux gens qui nous écoutent.
As-tu vraiment besoin de faire de la pub à cette boîte?
Non.
Alors, à cause de qui, quand même, le monde va un peu mal.
Laissez 10 secondes à Émilie. C'est un endroit où on peut pas expliquer. Tu as 10 secondes.
Je vous explique. Donc, il y a 10 épisodes. Là, on en est au 6. Il en reste 4. Attendez 4 semaines, parce que là, en ce moment, Apple fait une promo où tu as pendant une semaine Apple TV Plus gratuit. Tu le prends une fois que l'épisode 10 est dispo. Tu te fais les 10 en une semaine, je pense qu'on l'a tous fait de binge-watcher à fond, et après tu te désabonnes, et comme ça tu ne donnes pas d'argent à Apple si tu n'as pas envie, Virginie.
J'adore, c'est merci.
Merci. Merci beaucoup.
On croyait bien nous,
on peut revenir à The Morning Show. Donc, qui l'a vu à part Émilie?
Ah!
Un avis?
Alors, moi
Virginie.
J'ai vu The Morning Show, je trouve ça super pour avoir fait de la télé pendant des années. C'est. Ça fait partie, selon moi, des très bons. Comment dire? Enfin, ils te rendent très bien compte de ce que c'est que de bosser dans la télé.
D'accord.
Parce que c'est quand même un milieu de taré. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est précisément. Comment il s'appelle?
Carell.
Steve Carell.
Ah, Steve Carell.
Qui découvre en fait qu'il est un prédateur. Et je suis désolée, mais on est dans cette période post-MeToo où en gros c'est tout le débat de dire mais alors est-ce que on va plus pouvoir se draguer, ce machin, ce truc. Et en fait, je pense que t'as toute une génération d'hommes qui est en train de se remettre en question et qui ne soupçonnait pas en fait qu'il faisait du mal. Ouais. Et c'est exactement ce personnage. Et c'est en ça où je trouve qu'il est traité de façon intelligente, humaine et pas du tout stigmatisante et enrichissante. Et donc je trouve que c'est plutôt une écriture intelligente. Et crois-moi, sur Apple et pour les ricains, je suis plutôt avare.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'il n'y a pas que MeToo aussi, je tiens à le dire, parce que moi je sais que, on va pas se mentir, je l'ai regardé parce que effectivement ça parle de télé et que moi, travaillant dans la télé, j'aime bien ça, et Jennifer Aniston, et je me suis dit, bon, ça risque d'être un peu chiant, on va pas se mentir. Et en fait, il y a au-delà de ça, il y a aussi la passation de pouvoir entre une nana qui est là depuis 25 ans et une petite jeune qui arrive et qui voit le journalisme d'une façon différente, qui a envie d'enfoncer, à peu près toutes les institutions, et donc il y a l'espèce de petit combat entre les deux, et je te vois, Fabrice, qui est en train de bougonner à côté de moi, mais tu n'as pas regardé, donc tu ne peux pas pas savoir.
Non, c'est la série préférée d'Evelyne Delia, je crois qu'elle attend.
Ok, Fabrice, tant que tu la ramènes, vas-y. C'est quoi ta série coup de cœur?
Enchaîne.
Alors moi, ma série coup de cœur, c'est Mindhunter. C'était sur Netflix, il y a 2 saisons de Mindhunter. Alors si je devais résumer Mindhunter, ça serait une espèce de prequel de Esprit criminel. Vous voyez Esprit criminel sur TF1?
Tu dis prequel, toi?
Oui, je dis prequel.
Ok,
tu dis, je dis comme je veux.
Prequel, mais d'accord.
Et moi, je dis prequel parce que j'ai fait du latin. Et donc Mindhunter, c'est super bien. C'est les ancêtres, c'est les débuts du profilage aux États-Unis. C'est comment 2 enquêteurs du FBI créent une cellule avec une psychologue pour essayer de définir le portrait type des serial killers. C'est eux qui inventent le terme. Donc c'est tiré de textes qui ont été écrits par des vrais agents du FBI. Donc déjà, c'est le premier point. Ça se passe dans les années 70, fin années 70, début 80. Donc c'est tout à fait pour moi. J'ai reconnu même la BO. Hein. Il y a du Pat Benatar et etc.
C'est l'époque où tu étais jeune, quoi. Voilà.
Et on parle pas assez de cette BO d'ailleurs.
Exactement.
Elle est très bien, personne n'en parle jamais.
Exactement. Et ensuite, il y a quand même un truc qui est très fort pour moi, le tour de force de Mindhunter, c'est de nous raconter quand même des meurtres atroces, hein, parce qu'on est comme sur des serial killers, sans jamais nous montrer une seule image. C'est-à-dire qu'on évite toutes ces espèces de scènes ultra angoissantes, ou alors même parfois qui en font un peu trop, un peu gratuites de meurtres. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est Candy, hein. C'est quand même assez horrible, puisque tous les meurtres sont racontés par les serial killers eux-mêmes, donc qui sont joués par les acteurs extraordinaires, des serial killers en latin. Et donc, et c'est eux qui racontent, donc, ils racontent des histoires qui sont certes horribles, bon bref. Mais c'est très réussi, et le dernier point, ce sont les acteurs. Les acteurs sont super bien. Moi, je trouve que ce jeune acteur qui s'appelle Jonathan Groff,
qui est très joli en plus,
qui ressemble à
Emmanuel Macron.
Ah, c'est Emmanuel Macron, etc.
Ah, mais j'avais pas vu. Personne n'en parle.
C'est nous, on en parle.
Mais un petit peu, un Macron un peu ambigu quand même.
Enfin, bah non,
en même temps, un Macron.
Un Macron qui aurait une sexualité. Oui. Évidemment, ça change tout.
Mais je trouve qu'il ressemble à Macron dans la saison 1 et pas dans la saison 2.
Et dans la saison 2, le voit moins, c'est peut-être pour ça.
Ah, mais c'est peut-être pour ça.
Ah oui, c'est parce que j'ai cru qu'il a vieilli. Non, en fait, c'est l'autre personnage.
Il a eu sa liberté,
grossi,
c'est pour ça.
Il a grossi dans la deuxième, tu vois. Je m'attaque pas qu'au physique des femmes, je m'attaque aussi au physique des hommes. Il a grossi dans la deuxième, je trouve. Et en tout cas, il est excellent. Et puis, il y a surtout la sublime Anna Torv, qu'on avait découvert dans Fringe, notamment.
Oui,
dans Fringe.
Oui, on l'a fait un Fringus.
Très chaleureux, Anna Torv, toujours. Beaucoup de chaleur. Oui, ça, c'est vraiment qu'on a envie.
On a envie d'être copains avec
on
elle.
On a envie d'être copains avec voilà. Moi, il y a un moment pendant cette saison 2 où j'ai eu ce petit coup de réveil. Je te dis, est-ce que je me ferais pas un petit peu chier, quand même? Mauvaise storyline de l'enfant dont vraiment on se tape.
Ah si, moi ça m'intéresse.
Elle
ça
est mal pacotée. Et moi j'ai trouvé qu'elle était, à part l'épisode Charles Manson qui est magique, tout le reste je me suis quand même profondément ennuyé.
Alors je retiens cette phrase, hein. Donc l'épisode Charles Manson qui est magique. Hein.
Ouais.
Et, c'est la première fois qu'on lui met le mot magique avec, mais en tout cas c'est vrai que cet épisode il est super. Mais moi je trouve que justement l'intrigue sur son acolyte et sur ses problèmes de famille et notamment de son fils qui a visiblement de gros problèmes, de très très gros problèmes, je vais pas tout dévoiler là, mais effectivement je trouve que ça a apporté quelque chose de nouveau parce qu'on connaissait rien de sa vie privée à ce personnage et je trouve que c'est peut-être le personnage le plus intéressant de la série.
Oh, tu m'as convaincu, j'ai envie de la revoir. Ouais, tu sais quoi, je vais me retaper la saison 2.
Non, moi ce que j'aime bien dans Mindhunter, c'est que donc le Macron là, on va l'appeler Macron parce que je crois que visiblement personne se souvient de son nom, en fait est inspiré d'un mec qui existe vraiment, qui a vraiment créé voilà cette section là, et en fait le gars participe à l'écriture de tous les scénars et donc du coup ça donne une véracité qu'on n'a plus trop en série. On l'avait sur Esprit criminel, Passion, hein, chez Marmour, si tu nous entends, je t'aime beaucoup.
D'ailleurs c'est à partir du bouquin de ce gars là qu'ils ont créé la série.
Et voilà, c'est pas mal parce qu'on en bouffe du serial killer dans absolument toutes les séries, donc là c'est bien aussi d'avoir un truc qui soit un peu réaliste.
Et cerise sur le gâteau, c'est produit par David Fincher quand même, à qui on doit Seven, Zodiac, etc. Donc il y a quand même une passion derrière
un mec
ce sujet.
N'en jetez plus, on va regarder. Virginie ?
Alors moi j'en ai 2 coups de cœur parce que je suis large. Je vais commencer par un truc intello. Tchernobyl. Bon, bah, 26 avril 86, t'as une centrale nucléaire qui explose et puis bah, le monde rapetisse et d'un coup on se rend compte qu'on est tous interconnectés. C'est un peu Internet avant Internet. Et série.
On m'a jamais raconté Tchernobyl comme ça, j'adore.
Bah, c'est la vérité.
Mais c'est une façon.
Bah, gros nuage de Tchernobyl. Alors, faut quand même savoir que bon, ce truc a pété, qu'il a été livré dans l'atmosphère. Toutes les heures, c'était genre 10 fois la bombe d'Hiroshima. Hein, et c'est resté ouvert, à ciel ouvert pendant plus d'un mois. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans la série, c'est que. Et ça, moi, je crois à ça. C'est-à-dire que, bon, aucun acteur n'est connu. Hein, je ne vais même pas vous citer les noms parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais ils sont formidables. L'écriture est extrêmement exigeante. C'est-à-dire que vraiment, tu comprends ce qui s'est passé dans cette centrale, la fusion et tout. Toute la notion de parti, de pouvoir, ce que c'était que l'URSS, est extrêmement bien rendue. Dans la réalisation, il y a quelque chose d'hyper intelligent. Ils ont pris toutes les images d'archives qu'on a vues malgré nous, qu'on connaît en fait. Et il les a inclus dans le récit. Donc d'un coup, tous ces mineurs qu'on a vus partir pour essayer de creuser sous la centrale, parce qu'à un moment donné, quand même, faut le savoir, ça s'est vraiment passé. T'as Gorbatchev à table, les mecs, et donc t'as les scientifiques qui arrivent et qui disent bon bah voilà, le problème qu'on a, c'est que le cœur est en fusion, il est en train de percer son sarcophage, il va arriver dans la piscine que les pompiers ont rempli pour essayer d'éteindre le feu, et si ça touche la piscine, il y a l'Europe qui disparaît. Donc là, t'as Gorbatchev qui fait un peu la gueule. Et surtout, tu te dis, mais à quel moment on a créé un monde où il nous faudrait Bruce Willis ou Sylvester Stallone, alors qu'on n'a pas, en fait, de Bruce Willis et Sylvester Stallone dans la vraie vie, quoi. Il n'y a pas un mec qui arrive et qui sauve tout le monde. Donc, on vit dans ce monde-là. Et Tchernobyl a eu énormément de répercussions, notamment sur la façon dont on a eu d'appréhender le monde. C'est-à-dire qu'avant Tchernobyl, quelle que soit l'horreur que vous pouviez vivre, il y avait un ailleurs possible. Tchernobyl a tué cette idée, d'ailleurs. Donc, c'est une série qui est fondamentale. On passe vraiment un bon moment.
C'est comme la chic sous Charles Manson.
Voilà, mais non, mais c'est vraiment bien joué. On est dedans, ouais. On comprend. En fait, ouais. On s'informe sur ce qu'on vit, quoi. Et alors, pour compenser, trop d'efforts intellectuels.
Ah toi, tu places deux séries directes, quoi.
Ah bon, non. D'accord, une seule.
Bah oui, mais on peut peut-être
faire en deux temps. Je crois qu'il voulait faire en deux temps.
Ouais, on va le faire.
Alors, on avait tous deux séries. En fait, on a eu le temps d'en faire qu'une seule. Donc,
pardon.
Parce que là, vous voulez dire que pour me faire ça, vous avez préparé.
Attends, j'ai pas l'air d'avoir préparé là. T'es sérieux?
Si, c'était
j'ai encore mieux compris qu'après avoir vu la série.
Ah bah alors,
mais non, moi j'ai compris différemment. Ah. Il faut que je revoie aussi.
Ça te fait du boulot.
Ça va beaucoup de temps pour préparer.
Céline,
les
t'as eu un petit coup de cœur, un truc?
Oui, moi j'aime les vieux, j'aime les vieilles personnes.
Ah, merci pour ça.
Et l'Amérique du coup.
Exactement.
Et l'Amérique. Et il regardait Emilio en disant ça, j'adore.
Je suis la plus jeune, arrête.
Parce que face au bloc communiste, face à Tchernobyl, on part directement à Los Angeles et on prend un personnage de vieux beau incarné par Michael Douglas. Il joue Sandy Kominsky dans la saison 2 de La méthode Kominsky, où il joue un prof d'acting. Il martyrise de jeunes étudiants, il leur apprend à devenir acteur et lui-même, sa vie part en...
En cacahuète,
voilà.
Sucette,
c'était pour le niveau lexical à employer. Donc, il est là, il va mal, il vieillit et on lui annonce qu'il est malade. Aucun spoiler, bien évidemment. Donc, il est malade. Rien ne nous prépare à ça. On est à Los Angeles, il fait beau. Ses amis, c'est des agents. Ils perdent du monde. Comment tu fais quand tu vis sous le soleil pour accepter de perdre du monde? Comment tu fais quand tu es un homme post-MeToo pour accepter ce changement de rapport au monde, parce que ils ont leurs habitudes, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils vont au même bar tous les jours pour siroter le même cocktail infect. C'est très compliqué pour lui et quand on lui apprend sa maladie, il est obligé peut-être d'aller vivre avec sa fille. Et ça, il y a toute une relation en fait, de cette question de la relation à la famille que tu n'as pas. Los Angeles, t'es là pour vendre du rêve. Et pour une fois, on voit pas un Los Angeles positif. On voit le soleil, mais on le voit lui enfermé. On le voit lui malade. On le voit lui avec des relations très compliquées. On le voit lui divorcé. Donc moi, j'ai passé un très bon moment devant cette série ensoleillée.
Le mec est joyeux. Hein. Oui, c'est ouais, ça, il pose le personnage.
Passionné de Los Angeles. Je sais pas d'un coup si j'ai envie de l'avoir. Déjà, la bande-annonce m'a pas tourné complètement.
Ah, non, la série est géniale.
Ah, tu l'as vu donc?
Ouais.
Bon, bah, dis un truc.
Bah, j'interviens, je vais sauver le bébé.
Hashtag pétasse, on a le droit de le dire.
Non, mais moi, je comprends la passion de Céline pour le sujet. Je me dis, tel qu'il le décrit, que ça me plairait pas.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que bah, t'as des mecs de 70 ans qui parlent de ce que c'est que vieillir. Et c'est quand même un tabou absolu ce que c'est de vieillir. Or, on vit tous de plus en plus vieux et à un moment, personne nous dit comment ça va être. Donc, ils en parlent. Les enfants, effectivement, c'est pas des enfants de 14 ans en crise d'adolescence qui comment on dit du poppers, c'est juste des...
comment on dit tous les enfants bien sûr.
Alors on parle de Coria tout voilà. À l'heure, hein, bouge ouais, pas.
Là c'est vraiment la fille, elle a 40 ans, c'est la fille d'une star, elle craque du pognon, elle boit, elle fait rien de sa vie, son agent, voilà, non parce que tu travailles, elle travaille pas, c'est ça l'enfer quoi. Ouais. Elle a aucune responsabilité de rien, son agent c'est un big boss, mais en fait il est plus le bienvenu dans son agence. Enfin c'est comment t'es déclassé par le monde quand t'es vieux quoi. Tu n'as plus de raison d'exister et le monde est en train de changer effectivement, ils ont plus les règles du jeu, mais le rapport qu'il y a entre les deux, le regard qu'il y a sur la vie, et évidemment le fait que ce soit porté par Michael Douglas, qu'on a vu être un jeune premier absolument merveilleux, un homme de 40 ans sublime, et qui est aujourd'hui le plus beau vieux du cinéma, point barre, quoi. Il est hyper, hyper beau, hyper sexy.
Il me fait super peur, hein, personnellement.
Quoi ?
Il me fait super peur.
Eh ben, pas dans la série. On voit pas le lifting, beaucoup moins. Il a vieilli depuis, ça bouge maintenant, ça y est,
son
c'est
son père a 102 ans, quand même, donc.
Oui,
son père, c'est la classe à Dallas.
Ok, bon, est-ce que je vais leur. Qui va la regarder, du coup ? Donc, on en a deux qui l'ont déjà vue.
Bah, moi, pour les vieux qui vieillissent bien, j'ai pas, je regarde à gauche, à droite, je suis bien.
Je pense qu'elle essayait de dire un truc sympa, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est horrible.
Je vous aime, les garçons. Même si vous avez des cheveux blancs.
Ce serait le pendant de Grace and Frankie, ou Frankie and Grace.
Mais Frankie and Grace, moi, j'aimais bien parce qu'il n'y a pas ce côté vieux devant, quoi. Il y a un côté beaucoup plus. En surface, il y a un truc sympa. Alors que là, en surface, il y a un truc. D'abord, ils sont vieux, ils sont malades.
Ouais, c'est plus c'est léger aussi.
Ouais, c'est plus léger. Mais puis sinon, pas... il y avait les craquantes.
Ah oui, là pour le coup, les Golden Girls.
Bah, moi, j'étais pas née.
Genre, les redifs, ça n'existe pas.
Et Tina Rossi, tu connais ?
La mauvaise foi. Bon, les enfants.
Oui.
Vous avez pris pas mal de temps sur votre première série, donc autant vous dire qu'il vous reste peu de temps. Si vous voulez me parler d'une deuxième série, donc vous me la pitchez, mais en mode 10 secondes flash. C'est votre coup de cœur, donc il faut que j'ai envie de la voir juste après.
D'accord.
Émilie, ça va être à toi. Attention, Émilie, c'est parti.
Loudest Voice, Canal+, Russell Crowe qui ressemble pas du tout à Gladiator. Au contraire, il est énorme. Il est voilà, il ressemble plus à rien. Il joue le patron de Fox News, qui est donc une chaîne américaine très controversée parce que très Trump, très dégueulasse. On va pas se mentir. Il s'appelle Roger Ailes. C'est le mec qui a créé Fox News. Il a été accusé de harcèlement. Encore une fois, je suis désolée, je retourne sur ça. Mais parce que c'est pas le propos de la série. Ce qui est intéressant, c'est la construction de cette chaîne qui est devenue une chaîne qui a aidé à élire plein de présidents, dont Trump. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que chaque épisode se déroule sur une période particulière et comment Fox News et le journalisme ont influencé les gens. Il y a notamment un épisode sur le 11 septembre où voilà, il se pose la question de savoir s'il faut montrer les images d'un mec qui saute des tours parce qu'il se suicide, parce qu'il ne sait pas par où passer. Et là, t'as les gars qui font « Bah ouais, vas-y, ça va faire le buzz ». Et effectivement, les images ont été reprises partout. Et donc, voilà, comment le journalisme peut distordre toi, ta relation avec... l'information, comment ça peut t'influencer et comment un seul mec, un gros connard, on va pas se mentir, a réussi à faire en sorte que les gens en viennent à devenir extrémistes aux États-Unis. Point à la ligne.
C'est génial. Cette
série
bien
présentée ou pas ?
Bien présentée. Merci. Et c'est une série dingue, il faut absolument la regarder. Fabrice ?
Moi, c'est The Crown, pour l'accent, ça ira. C'est la saison 3, c'est l'histoire, donc, c'est sur Netflix, c'est l'histoire de le parcours d'Elisabeth II, donc, qui est toujours donc, au pouvoir, bien sûr, toujours reine.
toujours en exercice.
Je spoil rien, ils l'ont pas tué. Et donc, la troisième saison se passe entre 1964 et 1977, donc, c'est quand même une énorme période, sachant que, quand même, dans cette période, il n'y a pas non plus d'événements majeurs, ou en tout cas croustillants, qu'on attend un peu sur cette période. Je pense qu'on attendra davantage dans la prochaine, avec l'arrivée de Diana.
Gillian Anderson.
Et voilà, alors. Calme-toi. Mais je parlais de Diana, je parlais pas de Thatcher. Mais en tout cas, la saison 3, il y avait un pari énorme, c'était de changer tout le casting, puisqu'ils ont changé tout le casting. C'est-à-dire qu'on retrouve forcément, bien sûr, les mêmes personnages, mais ils sont joués par des acteurs différents.
Est-ce que le pari est réussi ?
Pour moi, le pari est réussi. Ah. J'ai eu un quart d'heure un peu où je me suis dit, tiens, mais Olivia Colman dans le roi d'Elisabeth,
mais
moi.
Pourquoi ?
Pourquoi
ils ont viré tout le monde et pris d'autres gens ?
Ils ont vieilli. Et en fait, c'est un parti pris qui pour moi se défend. D'abord, Olivia Colman, je l'ai trouvé très bien dans le rôle d'Elisabeth parce que peut-être elle ressemblait davantage à la Elisabeth que moi je connaissais.
Oui, même si j'adorais Claire Foy.
Ça marche pas pour tout le monde parce que pour la princesse Margaret, par exemple, qui est jouée par Helena Bonham Carter, et Dieu sait que j'adore Helena Bonham Carter, mais là, pour le coup, on n'y croit pas trop, quoi. Mais ceci dit, on oublie assez vite quand même ce genre de casting parce qu'ils sont tous bons et que quand même c'est une série formidable, on le dit peut-être pas assez, mais en tout cas c'est quand même une des meilleures séries au niveau écriture, au niveau image, mise en scène. Je trouve qu'ils sont quand même au top.
Il y en a pas mal qui le disent quand même. Et d'ailleurs on avait quand même promis du décalé, de l'étonnant, donc on a fait The Morning Show, The Loudest Voice, Tchernobyl, Mindhunter, The Crown, L'Amitié de Kominsky. Ouais, il faudra que tu fasses un truc, Virginie, pour voir.
Keeping Up with the Kardashians, saison 17. Oui,
ah ouais.
Que je l'aime, cette famille. Bon, déjà, je vous l'annonce, Kim Kardashian, elle prépare la présidentielle. Tout le monde se fout de moi quand je dis ça, mais je vous le dis. Elle
c'est
va
vrai.
Être, et elle a de bonnes chances d'être élue. Elle est en train de sortir quand même, de réformer les prisons comme personne ne l'a fait, hein, et certainement pas, même pas Barack Obama, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Elle est en train, et elle est en train de chasser sur les terres d'Obama. Et j'ai bien observé sa méthode marketing. Elle est douée parce qu'à chaque fois, elle se faufile par un endroit laissé vacant. Donc là, elle s'occupe de gens qui normalement ne vont pas voter. Voilà, donc ça fait partie de la population américaine qui ne se déplace pas pour voter. Mais on sait que c'est cette population qui s'est déplacée et qui a fait élire Barack Obama. Moi, je vous le dis, elle prépare la présidentielle. Et maintenant qu'on part de Trump, franchement, je suis pas sûre qu'il soit pas mieux avec Kim Kardashian à l'arrivée.
Et tout ça part d'une sextape, donc.
Et tout ça, ouais, mais ça, c'est
extraordinaire. Bah,
et de Kris Jenner, la momager, qui a quand même...
qui est beaucoup plus puissante que Kim.
Qui est beaucoup plus puissante que Kim.
Plus intelligente,
mais surtout,
dur,
c'est
mais...
la seule femme de l'histoire de l'humanité, il faudra lui rendre ça, qui a utilisé son utérus comme une arme. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
tu parles de qui? De Kim?
Kris Jenner.
On peut la noter, celle-là?
Bien sûr. Donc ça, c'est quand même... Un jour, on écrira sur... parce que, bon, on va pas trop digresser. Mais en gros, pour réajuster la société, faire en sorte que les femmes soient plus...
L'incroyable famille Kardashian.
Voilà, il suffit de mettre Kris Jenner partout. Et bien là, c'est extraordinaire. Mais oui, il y a Kanye West qui pète des câbles. Ah oui, parce que, accessoirement, je vous rappelle que Kim Kardashian, elle s'occupe des prisonniers. Et puis son mari, maintenant, il s'occupe de la spiritualité de tout le monde. Et comme ils ont 800 millions d'abonnés, hein, tous ces gens réunis, bah à chaque fois qu'il fait une petite messe, un petit
800 millions voilà, d'abonnés. Non, mais vous imaginez, ils disent un truc, ils touchent 800 millions de personnes.
C'est-à-dire que ces gens sont d'emblée plus puissants que l'Église catholique, quoi. Donc lui, il s'occupe de la spiritualité, comme il est un peu dingue et comment on dit bipolaire. Bon, bah, il ira jamais jusqu'à la présidentielle. Elles vont faire en sorte. De toute façon, c'est des vaginators, hein, ces meufs. C'est des vagins griffus. Il y a aucun mec qui s'en sort.
J'ai
pas
une
se
image
mentir,
qui
quoi.
Pas possible.
C'est un truc. Non mais aucun homme ne survit au Kardashian. Ça, c'est la vérité. Même Bruce Jenner, enfin, tu vois, c'était compliqué. Quoi. Ah ouais. Non, c'est des vagins griffus. C'est des vaginators. Les meufs, elles, tu rentres, paf,
ça donne envie,
t'es fini,
en tout cas.
T'es fini, t'es mort, tu pars.
Okay,
et donc là, on est saison 17.
Donne-nous envie de regarder la famille Kardashian.
Bah, déjà, pour voir la future présidente américaine. Et puis, saison 17, il se passe...
Il y
a plein des nouveaux bébés faits par des mères porteuses. Il y a Kali qui a gagné son milliard. Il y a Yeezy là, qui a gagné son milliard aussi. Il y a Kim qui a lancé Skims, qui va gagner un milliard aussi.
Est-ce que
tout
tu
monde
sais
est
que
très
Kylie,
riche.
Quand même, on est parti à Los Angeles avec Selim il y a quelques mois, quelques années. Je crois que c'est la première fois, on y est allé, on a vu un magasin dans lequel il y avait un objet qui valait très très cher. L'objet, c'était genre un vase. Sa force, c'est qu'il avait été touché par Kylie Jenner.
Bah tu vois, on a les icônes qu'on mérite, méditer.
Ah bah non, mais moi je mérite pas ça, j'ai rien fait, hein, et c'est lui non plus. Nous on y est pour rien, il y a des gens qui regardent la famille Kardashian, juste pour ça.
Et donc ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, parce que quand même, comme ils sont une tripotée dans cette famille, ils sont pléthores, ils sont 42. Donc entre les ex, les actuels, les futurs, les bébés, les divorces, ils tiennent tout Hollywood. Il y a Brad Pitt maintenant tous les dimanches, hein, au serment de Kanye West, faut quand même le savoir.
Ah non, pas Bradou.
Mais Bradou est là.
Ah
Bradou
non, pas
est
Bradou.
Là. Mais non, mais il fait des posts, il est sur les stories, c'est la loose. Bradou, il est perdu. Donc en tout cas, il est tous les dimanches à la messe de Kanye West. Et donc tu vois tout ça avec les Kardashians, avec Kendall, donc qui fait la mannequin, Kylie.
Ah oui, c'est Kendall.
Moi j'ai une question très sérieuse. T'arrives vraiment à te souvenir de qui est qui?
Je connais le CV sexuel de chacune des Kardashians. Je connais même le CV sexuel du frère et des demi-frères qu'on voit jamais dans la série.
Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ça. Ça fait super peur. Et je voudrais que plus jamais on reparle de cette série ici. Plus jamais.
Bah si, quand elle sera présidente, il faudra bien en parler. Tu pourras dire, Virginie, vous l'avez dit dans mon émission en exclusivité.
Selim, t'avais un deuxième coup de cœur.
Est-ce que je peux changer de place? J'ai peur.
Selim est à côté de Virginie. Techniquement, du coup, c'est très compliqué.
On va rester à Beverly Hills parce que le reboot. Le reboot de Beverly Hills.
Ah, génial.
Il n'y aura pas la suite, malheureusement.
Passion totale.
Elle a été géniale. On a regardé. Alors, attention. Là, je dois applaudir quand même la personne qui partage ma vie pour nous avoir fait commencer cette série de reboot à l'épisode 3. C'est-à-dire qu'on a regardé le 3, puis le 2, puis le 1, et ensuite le 4, 5, 6.
Mais c'est très important pour cette série. On comprend quand même.
Et c'est exactement ça. Ils auraient pu commencer au 3 et tu avais tout. Le 1, le 2, tu perds du temps. C'est génial de les revoir. Ça a été une superbe aventure. Tu les voit, ils essaient de monter le projet et à partir de l'épisode 4, ils sont dans le projet et c'est de l'émotion pure. Tu vas chercher juste de l'émotion, tu vas chercher d'un truc rétro un peu.
Et de l'autodérision beaucoup.
Ah là là, qu'est-ce qu'ils se marrent sur eux-mêmes, sur leurs soucis d'argent, leurs soucis d'apparence, sur toutes les conneries qu'ils ont fait, sur leur alcoolisme, sur tout, vraiment. Ouais. Ils ont réussi à être dans l'autodérision clairement.
Ça va très très loin dans l'autodérision. Au début, ça m'a fait rire et après, j'étais un peu mal à l'aise.
Oui, mais c'est
un peu
dans quand même. Ça fait un peu, il ne reste plus que ça, quoi, l'autodérision.
Mmh. Est-ce qu'on peut avoir une petite pensée émue pour Dylan McKay?
Mais justement, à
Cali, une minute de silence en radio, ça marche toujours bien. Non, franchement, c'est mon idée.
À la fin de l'épisode, justement, il lui est
dit. On fait des grands signes en régie, là, je ne sais pas, ils n'ont pas la idée. On ne peut rien proposer ici. Super.
Non, mais là où ils ont été très intelligents, c'est qu'effectivement, maintenant, moi, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, le mot reboot, j'en peux plus. J'ai l'impression qu'ils vont faire le reboot d'absolument tout, même une série qui aurait eu deux épisodes.
Concrètement, c'est ce qu'ils font.
Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est prendre le contre-pied, c'est que c'est pas un reboot, c'est pas une nouvelle saison, c'est pas un espèce de nouveau
mais
truc.
Ils ont laissé croire. Ils ont laissé croire que c'était un reboot.
Oui, mais faut expliquer aux gens.
Bizarre.
Parce que nous sommes quand même là pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils regardent.
Ah, tu parles aux gens. Parce qu'il
faut qu'ils regardent.
Mais non, parce que c'est très drôle. En fait, c'est les acteurs.
Parce que tu penses qu'il y a des gens qui nous écoutent.
J'espère parce
qu'ils te font confiance.
Plutôt que de parler, on boit des coups, sinon.
Allez, vas-y. Ça suffit.
Voilà, c'est vachement bien le côté. Le voilà, j'ai plus le droit de parler.
Je m'en vais. Encore un homme qui censure une femme, c'est pas possible.
Là, ce patriarcat.
Pour une fois, vous m'obéissez plus ou moins quand je demande un truc. On va passer aux audiences. Ça vous branche dans les audiences?
Ouais, j'adore.
My God.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler en exclusivité ce que les 1 200 000 utilisateurs de bêta-série ont consommé ces 7 derniers jours. Okay, ah, donc j'ouvre l'enveloppe quasiment.
On fait le roulement de tambour.
On m'a donné une liste, donc je vous laisse voir la qualité de lecture.
C'est
un torchon.
Grosse production.
Là, normalement, j'ai un peu la tête de Karine Ferry, Camille Combal, quand ils ouvrent l'enveloppe. Ouais. Genre, oh là là, mais donc.
On arrête avec Karine Ferry, je t'ai dit.
On dit ce qu'on veut.
Je vous fais un top 10. Ouais, on va tous les faire. On a un petit peu.
Ouais, on se les fait tous. Vas-y, envoie. On se les fait.
Alors, en 10e position, il y en a pas mal qui sont une surprise pour moi. Je viens de les découvrir. C'est Si d'Apple TV+.
Jason Momoa.
Bah,
à mon avis, c'est pour ça que les gens sont allés voir. On va pas se mentir.
Mais
ça
il enlève
pas
ses vêtements ou pas quelqu'un
Ah bah visiblement il est torse nu.
Mais il joue jamais habillé ce gars-là de toute façon.
Non.
Bah, je crois que son plus gros talent est d'être torse nu.
D'ailleurs, il perd son potentiel d'acteur.
La meilleure photo de l'univers, c'est quand même Jason Momoa qui fait donc à peu près 44 mètres avec ses gardes du corps qui font à peu près 2 cm. Et ils sont là et tu te dis, bon bah en fait ils servent absolument à rien les mecs.
Ah non, elle est très drôle cette photo.
Atypical.
Ah
est en 9e position.
Mais oui.
Donc, série Netflix. En 8e, Grégory.
Ah bah,
Netflix.
Bah, alors,
qui rentre dans.
Je voudrais poser ici quelque chose dont je ne sais que faire. Mon fils de 11 ans regarde.
Mais tant mieux.
Mais je comprends.
Mais c'est bien.
Bah ouais. Mais
là,
en même
pour le
temps,
coup, c'est un vrai atout de Netflix que d'avoir redonné un intérêt à des formats documentaires.
Ouais, mais il a 11 ans.
Qui sont
donc
tellement scénarisés
que
ça.
Donc
ça
il vient m'expliquer,
bien,
en fait. Il me dit, mais moi je pense que c'est machin qui a tué Grange.
Ah bah, c'est fait pour qu'on ait tous une théorie. The End of the Fucking World est en 7e position.
Alors pour le coup, moi j'étais. Enfin, je sais pas si vous avez regardé, mais moi j'ai commencé à regarder les premiers épisodes. Tout le monde était tellement impatient, je me dis, bon, bah on va regarder ça. Je me suis fait chier. Mais vraiment, qui se met avec une nana et le gars est un peu, enfin, est asocial et voilà, on essaie de nous faire croire qu'en fait il la kiffe et j'ai aucun intérêt en fait, c'est pas un truc qui m'a fait kiffer.
J'ai beaucoup aimé, mais alors j'ai aucun argument pour la défendre. Je comprends qu'on n'aime pas, en fait,
voilà.
Parce que c'est une espèce de d'humeur,
ça
de road movie, et ça, voilà.
On se moque de nous en régie.
Faut que les gens comprennent que tout le monde en régie est mort de rire dès que je parle. Vous ne voyez pas. Dès que je dis un mot, c'est-à-dire que vous parlez, ils sont là à l'écoute, attentifs. Enfin, ils aiment quoi, ils kiffent. Dès que je dis un mot, ça s'explose de rire. Je passe un très très bon moment.
C'est parce que t'es le seul qui est payé.
On se voit juste après. Tu parles. Alors, 6e position, Hugh Sheldon. Canal+, j'ai pas d'avis.
Alors moi j'ai déjà du mal avec Big Bang Theory, je comprends pas pourquoi le monde déjà le compare à Friends, parce que je suis désolée, mais non, c'est comme...
Tu sais que ça a marqué sur toi Friends, quelqu'un te l'a dit ou pas? Les gens le voient pas du coup.
Mais ton slogan, Friends, c'est la vie. Ouais.
Mais bien sûr que c'est Friends, c'est la vie.
C'est un slogan ça
bien sûr. Tout le temps.
Ah ouais.
Mais parce que c'est la meilleure sitcom de tous les temps.
Ok, en 5e position.
Alors tu me juges pas comme ça, parce que je te jure, je reviens pas là. J'allais dire ça et en fait j'aime bien être là.
En 5e position, on a une série de Netflix qui s'appelle Titan, qui date de 2018.
D'accord.
Voilà. Je vous laisse aussi avec ça. En 4e position, il y a ma série préférée donc du moment. Donc on va
Riverdale,
pas s'arrêter dessus.
Watchmen.
OCS. On adore.
Mais j'ai pas regardé encore. On avait
regard entendu.
Je sais pas si on aura le temps d'en parler parce que vous êtes trop bavards, les gars, et qu'il nous faudrait une émission de 2 heures et que j'ai pas le temps d'aller négocier en régie. Le temps qu'ils se foutent de ma gueule.
Mais tu avais peur qu'on ne tienne pas une heure, tu vois, fais-nous confiance.
Mais qui a peur? Alors, s'il y en a un qui n'avait pas peur, on dira ça. C'est bon. Donc, j'en suis où? En troisième position, The Good Doctor, TF1. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait un truc de TF1, en fait. Ça me fait plaisir.
Ah bon, pourquoi?
Mais parce que TF1, mais c'est aussi le bazar de la charité, c'est aussi les choses très bien.
Ah, t'as réussi à caser.
Ah,
Il a réussi à caser, bravo.
Is Dark Material, en deuxième position, OCS.
Il déteste. Ah, là. Fabrice Dupreuil déteste.
Fabrice.
Oh là là, c'est
qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, moi, ça me fatigue. Dès le début, ça me fatigue. Le générique, ils se sont dit, tiens, on va faire un truc un peu à la Game of Thrones. Donc, même la musique, tiens, c'est ça. Et après, tout le truc, c'est, ah, mais maintenant, on va faire un peu de Harry Potter, et donc j'ai l'impression de regarder un truc qui est qu'on a vu, revu, et qui est un peu facile à faire en plus, et je pense que pour le coup je ne suis pas dans la cible, c'est peut-être pour ça aussi.
Alors que pour la série qui arrive en première position, t'es carrément dans la cible, puisque c'est The Crown.
Ah ouais, je suis trop dans la cible.
Saison 3 qui vient de sortir, tout ça, donc les gens sont à fond dessus, mais c'est bien que ce soit un succès, les gens s'intéressent à l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier pendant cette saison?
Il y a la petite histoire.
Ouais, là on est sur une petite histoire, il se passe pas grand-chose. Bref.
C'est dit.
Ça me faisait plaisir de le dire.
Conclusion.
Allez, on passe à la suite.
Oh my God.
Avec cette première émission, on va directement s'attaquer à votre street cred, puisqu'on va s'intéresser à vos plaisirs coupables en série.
Oh là là, j'en ai beaucoup.
Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi un plaisir coupable?
C'est quoi un plaisir coupable?
Merci. Alors, en fait, c'est quand on fait quelque chose qu'on n'assume pas complètement. Donc ça laisse quand même
avec les séries.
Non, pas que.
Devant les séries.
C'est un guilty pleasure pour les intimes. On peut dire guilty pleasure et ça, c'est pas que pour les séries, mais en matière de séries, parce qu'on va quand même regarder cette partie-là. C'est quand on est accro à un programme dont on admet qu'il est objectivement pas très bon. On le sait au fond de soi, mais que manquer le moindre épisode peut être un drame intersidéral. Tellement c'est réjouissant, c'est réconfortant, c'est régressif, ou c'est tout ça à la fois. En gros, c'est cette série cachée dont on ne parle pas forcément dans les dîners en ville, mais qu'on adore. Donc je pense qu'on en a tous, vous les premiers.
Non.
Si. Moi aussi, d'ailleurs, je me lance. Parce que, en fait, je ne peux pas dire mon avis jamais ici.
Ah bah non, c'est l'enfer d'être animateur.
Je déteste ça.
C'est pour ça que c'est vachement mieux chroniqueur.
Donc là, je donne mon avis en 3 secondes, on est déjà en retard, donc c'est super, j'en profite pour bouffer encore du temps. Le reboot, puisqu'on n'a pas le droit de dire ce mot-là, le reboot de Dynasty est pour moi l'objet le plus important dans ma vie, qui me manque depuis que Netflix a décidé, pour on ne sait quelle raison, de ne plus les diffuser en temps réel. Donc c'est un drame absolu. Je pense qu'il faut avoir vu la saison originale des années 80, donc là je regarde Fabrice, c'est le seul à me comprendre et à m'entendre, pour vraiment voir toute l'intelligence de ce reboot qui est fucked up et what the fuck, mais qui est l'objet sériel guilty pleasure par excellence. Donc on est d'accord là-dessus.
On est d'accord. La réussite, c'est d'avoir repris du vieux Dynasty qui était très premier degré en disant mais nous on va pousser encore le bouchon plus loin, mais on s'en amusait à fond, et alors, du coup ils y vont à fond. Mais c'est super.
D'ailleurs, juste parenthèse, tu parlais du côté Netflix qui met un épisode par semaine. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles plateformes en fait ont cette nouvelle tendance à nous réhabituer à attendre, et moi j'aime bien le côté
c'est
on
génial.
Attend. Non mais c'est vrai.
Mais c'est pas le point.
Oui, ben non, mais je le précise.
Je précise juste que Dynasty, le point est qu'il y a un épisode par semaine aux États-Unis qui était en temps réel sur Netflix sur les saisons précédentes et qui dorénavant n'est plus disponible, livré en une seule saison d'un bloc à la fin. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attend, avec ce retour à l'envie de cliffhanger et d'attente entre deux épisodes sur lequel on est tous d'accord, je pense. On en fera un petit.
Je viens de me faire fesser, c'était n'importe quoi.
Ah, c'était bon, c'était bien mis.
Ça t'a plu. Les fesses, c'est bien aussi.
On
peut faire un peu de.
T'es un peu de.
Allez,
on va partir là-dessus.
Ton guilty pleasure.
Ah, mais j'en ai plein, moi.
Ah, bah oui, mais faire des choix. La vie est un choix, c'est horrible.
Alors, je sais pas, déjà, ma passion, c'est de me refaire tous les épisodes de Melrose Place. Dans mon bar. Ah ouais, parce que TF1 a eu la bonne idée.
Melrose Place.
Ah non, Melrose Place, le premier, avec Amanda, avec tout le monde.
Non, mais en 2019, sans déconner.
Non, mais c'est Melrose Place, ça ne vieillit pas. Attends, excuse-moi, vous venez nous faire 5 minutes sur Dynasty. On va se calmer un petit peu.
C'est un reboot, c'est.
Bon, Melrose Place, c'est la vie. Voilà, c'est vachement bien.
Ça aussi.
Sinon,
ouais,
ça aussi. Non, Friends, c'est au-dessus. Et j'aime bien aussi. Je sais pas, il y en a bien. Mais bien sûr. Mais c'est la meilleure méchante série ever.
Non, la meilleure, c'est Kimberly Show.
Ah oui. Kimberly, c'est quand même la seule meuf qui revient.
Mais c'est la brune dans Dynasty. La mère Macrel de toutes les autres, c'est la brune dans Dynasty. dynastie.
Elle a tout appris, mais les autres, elles ont fait des progrès après.
Ouais. C'était la première, mais il y a quand même eu derrière du solide. Hein.
On va être obligé de faire une spéciale soap.
Il y a quand même Abby dans Côte Ouest.
Non, une spéciale méchante.
Ouais, une spéciale méchante. Ah ouais, c'est une bonne idée ça.
Faut que tu notes. Je note quelqu'un en régie, tant que vous avez rien à faire, vous notez.
On va ouvrir maintenant.
Non, j'aime beaucoup aussi un truc un peu plus contemporain, mais The Good Place sur Netflix, qui est une petite série dont personne ne parle, mais qui est plutôt sympa.
Pour moi, c'est pas un guilty pleasure.
Non.
Ah bah si.
C'est, tu exagères.
Bah excuse-moi, mais c'est con à bouffer un cul.
Oh,
c'était joli.
Oh là là, c'était joli. Est-ce que j'ai le droit en régie?
Non, on n'a pas.
Ah oui, la Jimmy.
Fabrice, c'est à toi. T'es guilty pleasure.
Moi, je suis un guilty pleasure à moi tout seul. J'adore les soaps. Et en fait, en réalité, j'adore les séries que l'on dit indéfendables. Et donc, pour ça, j'adore les soaps. Et donc, je suis capable de voir, de revoir, de savoir comment Claudia Blaisdell est morte dans Dynasty, comment Laura Avery est morte d'un cancer dans Côte Ouest sans que ça me fasse revenir
les mots. Je ne peux pas tenir le coup sur Laura, si tu
n'en reparles pas. J'en reparle pas.
Ils sont gênants, on est d'accord.
En l'occurrence, moi j'adore les soupes et je ne refuse jamais de me poser avec ma tasse de café le matin devant un bon vieux Amour, Gloire et Beauté. Parce que je trouve que ce truc est complètement dingue et surtout c'est complètement assumé. Le cahier des charges est rempli, c'est génial. Il se passe des trucs complètement dingues et auxquels tu finis par croire. Comment elle porte l'enfant de sa rivale? Mais oui, c'est normal. Tu vois pas où le problème. Ben non, mais tu
dans
le
les feux de l'amour,
et finalement,
ils sont bons aussi.
Et dans les feux de l'amour, ils font très bien ça. Alors, les feux de l'amour, ils sont un peu plus malins parce qu'ils se disent il faut quand même qu'on aborde des sujets un peu de société parce que quand même on est en avance sur notre époque. Et donc, dans Amour, Gloire et Beauté, par contre, eux, ils sont plus dans le bling-bling. Ils se disent mais nous, on va faire des trucs complètement débiles, mais les gens vont le suivre. Et donc, moi, je peux le suivre. Je le regarde pas tous les matins, je vous rassure, mais ça fait partie de
c'est l'avantage. Tu peux rater 10 ans, tu reprends exactement. L'intrigue. C'est l'avantage des soaps.
Quand on essaie de taper le matin, il n'y a plus personne. Hein. Virginie ?
Ah bah moi, grâce à Kim Kardashian et à Andy Cohen, producteur de sur une chaîne qui s'appelle Bravo.
On avait déjà fait notre multiplayer. Voilà.
Non, Kardashian, c'est intellect. Attends, après je. Après, je m'enfonce sur The Real Housewives. La série des Real Housewives. Mais moi, j'avoue une petite préférence pour d'ici. Orange County.
Mais non!
Si, moi j'aime bien. Atlanta, elles sont trop ghetto pour moi. Elles me font un peu peur.
Orange County,
j'adore. Bah, c'est genre, elles veulent toutes être à LA, mais elles sont pas à LA. Elles sont pas loin d'LA. Mais non, parce que t'es un peu dedans. Tandis que là, c'est des provinciales. Moi, j'adore. C'est-à-dire que c'est vraiment les provinciales. Les meufs, elles sont quand même, c'est Los Angeles, mais c'est pas le Los Angeles auquel tout le monde rêve. Elles sont à côté de gens qui ont plein de pognon, mais c'est pas les gens qui ont plein de pognon, du pouvoir et de la notoriété. Donc elles sont en bout de course. Elles sont en bout de course totale. Elles sont quittées comme ça, mais c'est un truc genre on dirait des poissons lune toutes.
C'est vrai.
Elles sont extraordinaires. Je les aime. D'amour. Ils sont tous chirurgiens esthétiques, leur mari.
C'est comme, comme si elles étaient à Saint-Maur-des-Fossés, tu vois, ça peut pas ça.
Voilà, c'est exactement ça. C'est genre chic, mais c'est la folie quand même. Tu vois.
Mais donc ça, rassure-moi, tu regardes quand tu tombes dessus par hasard.
Mais tu tombes jamais là-dessus par hasard. Faut aller le chercher. C'est comme les Kardashian. Non, j'ai plein de sites frauduleux pour aller voir. Il y a personne les diffuse.
Si.
La dernière fois que t'es partie à Los Angeles, tu les as tous regardés.
C'est ça. Dans l'avion.
Non, et puis surtout, I et Teva les diffusent. Et moi, je sais que je peux passer des dimanches entiers.
Absolument.
Moi, je préfère Beverly Hills devant celle de Beverly Hills.
Maintenant, tu le sais, Teva n'est pas frauduleux.
Très bien.
Et moi, je me suis déjà fait choper par l'incroyable famille Kardashian sur I ou tout à l'heure, dimanche après-midi.
J'ai pas I, moi. Vous avez I.
Mais si, tu as I.
Tu l'as, mais tu le sais pas.
Ah bon, c'est vrai. C'est vers quelle chaîne? 300, 400
euros.
C'est un
problème.
Alors, c'est possible parce que j'ai effectivement plein de chaînes, mais j'avoue que ma curiosité ne va jamais au-delà de 20 parce que je ne sais pas ce que je vais trouver, j'ai un peu peur.
C'est ça. Dis la fille qui regarde donc la Kardashian et toutes les Housewives de la Terre. Bon, je comprends.
Célim, j'ai un peu peur.
Il va falloir mettre là-bas. Oh,
Célim, alors.
Écoute, non, le choix a changé. Tu sais que le choix a changé depuis le moment où on en a parlé entre nous en cachette.
Ah, mais comment on va faire sur la prod là?
Non, je suis désolé.
Il y avait une prod énorme. Attends, les images défilent, ils sont en panique en régie. Regarde-les, ils paniquent.
Ça se voit. Mais tu sais quoi? Elle vient de m'engrainer là avec son histoire parce que ça m'a fait penser.
Tu viens de changer à l'instant.
Là, on est en impro.
J'adore cette spontanéité.
C'est la ligue d'impro. Allez,
pire que tout.
Je suis prêt.
Selling Sunset. Est-ce que vous avez vu le pire programme de l'humanité, des agents immobiliers. C'est, vous prenez Stéphane Plaza français, mais vous le mettez à Los Angeles, vous lui mettez d'un double D, vous lui mettez des talons. C'est merveilleux. Tu regardes des bombes atomiques qui vont vendre des maisons à 40 millions à des mecs blindés qui les draguent. Ça n'a aucun sens.
C'est une agence immobilière.
Ça s'appelle Selling Sunset. Donc, on est sur Sunset Drive. Et
donc,
ils vendent...
vendre du rêve un peu. Sunset, le coucher de soleil. Ils vendent le coucher de soleil.
Et tu suis des rivalités d'agentes immobilières qui
sont. Je me demandais pourquoi t'avais regardé. Maintenant, je comprends.
Qui sont toutes des. Non, mais je les regarde avec ma femme.
C'est ça le pire. Oh, c'est vraiment un guilty pleasure.
Parce qu'on cherche un terrain. On cherche un terrain à Los Angeles, évidemment. Et
il y a ma chambre d'amis.
Et c'est complètement fou. Tu as une nouvelle qui arrive à l'agence, et du coup, les rivalités vont être exacerbées. Et la nouvelle, elle est mariée à. Tatin. Le monsieur qui joue Kevin.
Personne ne peut t'aider, Céline. Personne n'a jamais vu cette chose dont tu parles. Non,
si.
Non.
Ce que j'ai bien, c'est qu'il fait un compte à rebours sur un mec dont il se souvient pas du nom.
Eh bien, elle est mariée à Clément Chouinard.
C'est Kevin dans This Is Us.
Justin Hartley.
Exactement, c'est sa femme. Et donc, elle est agent immobilière. Et du coup, il y a des tensions. Il y a de l'agent.
Ah oui, non, ça, c'est officiel. C'est l'agent qui a demandé. T'inquiète pas.
On a bien regardé.
C'est comme Jérémy. Renner, tous les autres, voilà. Ne t'inquiète pas, tout est
safe. Le mec de Haro qu'on avait rencontré.
On ne touche pas à Steve.
On se calme.
Donc, Guilty Pleasure.
Il a morflé derrière. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Il a morflé dans la saison.
On ira voir un coup après.
Il a pris 20 ans d'un coup.
Bon, moi, alors, ce soir,
Selling Sunset.
Selling Sunset, sa femme, des agents qui sont bombastes.
Mais c'est pour moi, grave. Ce soir, direct.
Exactement.
Et tout ça, ça fait une histoire ou c'est juste des.
Mais on s'en fout. Mais t'es réac.
Ça fait une histoire parce que les deux jumeaux maléfiques qui tiennent cette agence, qui sont petits, ils sont entourés de toutes ces belles femmes et il faut vendre le terrain à plus de 40 millions.
Il y a un problème avec la taille.
Mais ouais. Oui, parce que quand tu les vois, ils font 1m65 et elles font 1m80, c'est Jason Momoa et ses gardes du corps. D'accord. Tu vois.
Bon, vous nous avez tout avoué en guilty pleasure ou pas? Est-ce qu'il y a des plaisirs coupables?
Ah bah, après, on peut passer à YouPorn, mais on n'a pas le droit.
Elle est folle. Non, Émilie, t'en avais une petite en plus, non?
Mais moi, je n'ai quasiment que ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'aime bien l'idée de regarder des.
Ma vie tourne autour de la culpabilité, en fait. C'est ça?
Mais je suis coupable. T'arrêtes pas de nous parler de Riverdale, de Glee.
Ah, mais attends, bien sûr.
Glee, ça rentre dedans, pardon.
Mais non, mais Glee, c'est génial.
Je l'adore, mais Glee, quand même, tu
vas Glee, c'est génial. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens très limités qui regardent Glee au premier dog en se disant.
Au premier degré.
Sauf que Glee, ça dit vachement sur. C'est pour ça que je le vois pas. Non,
analyse sociétale.
Mais ça dit vachement sur la société
on avait
américaine.
On a un jingle analyse sociétale, les gars, ou pas? Non.
Okay. C'est con.
Et c'est du Ryan Murphy. Moi, j'ai une passion totale pour Ryan Murphy. Peu importe ce qu'il fait. Là, il a fait The Politician sur Netflix. Je sais que vous dites tous que voilà, c'est pas extraordinaire, mais moi j'aime bien.
Et non, je dis pas ça. Moi, je dis que le dernier épisode est absolument sublime.
Mais
de
toute
The
la série est vachement bien.
Faut juste attendre le dernier épisode.
J'en ai un petit peu marre du truc, genre, si jamais t'es pas obligé de faire de la masturbation intellectuelle quand tu regardes une série, ça veut dire qu'elle est mauvaise.
Mais non, mais Ben Affleck est mauvais, il est pas bon, quoi. Quand il chante, il a l'émotion d'une huître.
Pardon, je suis
désolé. Oui. Ils essaient de faire du Josh Groban dans Ally McBeal pour les plus anciens, c'est-à-dire ce personnage pas charismatique qui, quand il chante, devient sublime.
Non, mais Ally McBeal, c'était d'abord une escroquerie, on peut le dire.
Mais attends, quand il chante
pour un moment précis, parce que là, pour le coup, ça a pas un nom, donc on peut pas le dire. La première fois où il chante, mais moi j'ai chialé ma race.
Oui, mais vraiment, toi tu pleures un peu pour tout.
C'est pas faux. Non, franchement,
moi, ça m'a pas du tout touché, vraiment. Ça n'a pas marché sur moi. Et j'aime Ryan Murphy. Bah, je sais pas, je le trouve pas bon. Je le trouve. Les situations extrêmes à la Ryan Murphy qui marche dans plein de situations. Pose, c'est ma série préférée de l'année. Enfin, l'environnement politique est en soi un univers un peu compliqué qui est tiraillé.
Alors précisons pour les gens qui connaissent pas le pitch ou quoi que ce soit que l'environnement politique c'est des élections au lycée, donc c'est pas non plus un truc extraordinaire.
La toile de fond est quand même bien
oui,
au-delà
oui
la,
mais
la toile de fond
attends,
c'est bien
ouais, c'est du ça peut faire un peu peur
non,
c'est
non,
ça
on est sur non, The Politician.
Ah bon parce que j'étais en train de
pour la petite histoire, c'est parce que Virginie nous a servi un verre d'eau et tout ça, et donc Fabrice ça fait 3 minutes qu'on est en train de parler avec Eric et Fabrice ne nous écoute
plus. Ah non, c'est surtout
que je crois que plus personne ne nous écoute.
Tout le monde s'en fout.
En fait, on a perdu tout le monde, les enfants. Donc, ok.
On en reparlera.
On se dit que The Politician, tu aimes, j'aime pas, on fera un débat.
Glee, c'est génial.
Eglis, c'est génial. Qui pense que c'est du guilty pleasure, enfin un plaisir coupable, qui pense que c'est aussi Glee, assumable
non,
que n'importe
Glee,
quel
c'est
service.
Pas, enfin, Eglis, ça se regarde pas en fait.
Non, en fait, c'est ça, c'est que c'est même pas du guilty pleasure.
Il y a même pas de plaisir dedans.
Bah non, il y a pas de regard. La petite maison dans la tête, ton basique, tu vois.
Je m'aurais dit revenge. J'aurais dit bon.
Oh oui, revenge.
T'aurais dit quoi à dire, je faisais revenge, fini la saison 1 et après c'est de la merde. Non, mais après la saison 1, c'est de la merde.
Non, mais ça, c'est le problème des séries, c'est que généralement ils te tiennent un pilote.
Il adore rebooter, je rappelle.
Oui, oui, c'est ça. Et les feux de l'amour, parce qu'il a pas encore dit, mais il aime les feux de l'amour aussi.
Mais moi aussi, j'aime les feux de l'amour. Ah. Et il y a une saison quand même où j'aimerais le poser sur cette table et puis vous en faites ce que vous voulez, où il y a quand même toutes les gonzesses de la série qui se sont battues parce que Victor Newman était supposément mort et qu'il avait congelé son sperme et tout le monde a essayé de voler son sperme.
Exactement, elle voulait tout un petit bébé.
De Victor, rien à voir avec le compte en banque.
Je vais y aller en fait, j'ai poney.
Eric, il nous regarde, genre il est.
Super peur.
Ouais, c'est Eric, il a peur. Je pense qu'on est viré.
On va essayer de trouver un thème de débat la prochaine fois qui soit un tout petit peu plus haut de gamme. On a dit qu'on faisait populaire, accessible, mais là, ça va trop loin.
Donc le don de sperme dans les séries, c'est terminé.
Ouais, c'est un jump de shark.
C'est quoi,
très bon sujet.
Quoi?
Merci pour cette intervention brillante.
Alors pour ceux qui n'auraient pas connu, c'est Célim qui vient de parler. Bon, je propose qu'on consacre quelques minutes, il nous en reste pas beaucoup, mais quelques minutes à justement ces séries qui vous ont déçu. Moi, je vous ai déjà révélé la mienne, c'est The Politician. Est-ce que vous avez, au cours de ces dernières semaines, été déçu par ce que vous attendiez avec impatience, qui est arrivé, et paf, c'est le drame, vous n'aimez pas.
Stranger Things saison 3.
Ouais.
Même saison 1, non.
Merci pour ça. Je suis tellement d'accord. Moi, ça a commencé à la saison 1, la deuxième saison.
Alors, moi, j'ai aimé la saison 1. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le petit côté un peu nostalgique, assez rigolo à suivre. La saison 2, je me suis dit, bon, j'y vais, mais j'ai peur. On aurait dit Gisèle Malasco dans Les Bronzés, pour ceux qui ont la référence et qui ont plus de 30 ans comme moi. Là, la saison 3.
Plus de 40, même. Tout le monde l'a vu.
Oui, mais plus de 40. J'ai pas 40, connard. La saison 3, en fait, là, je suis en mode, vous êtes gentil, mais est-ce qu'on peut un peu lever le pied sur la nostalgie? Et la nostalgie ne fait pas une série, la nostalgie ne fait pas une saison.
Ça fait des produits dérivés et ça ramène du pognon dans le studio et c'est pas de la création.
Une fois que t'as vu Ready Player One de Spielberg au cinéma, tu dis, bon, ça bon. Voilà, le gars, il a plié le game. Le côté nostalgique, c'est bon, tout est fait. Donc maintenant, essayez d'être un peu créatif. Et Stranger Things saison 3, j'ai regardé 20 minutes. C'est tout. Je me suis fait chier.
Et on se fait un avis en 20
minutes.
Mais non, parce qu'après, j'ai fait
bravo les médias.
Bravo le métier de journaliste. Et on se demande ensuite pourquoi le public est dit silence.
Je me suis enquillée deux saisons. Alors autant dire qu'en Ramy, vous savez ce qu'ils
ont.
J'avais pas envie de les voir à deux, c'est tout.
Moi, j'ai regardé la troisième saison et je l'ai trouvé même mieux que la deuxième parce que je trouvais qu'on revenait sur les problèmes d'ado et c'est ça qui me plaisait bien, moi, ce côté un peu ado des années 80, là, qui sont en train de se regarder, qui savent pas comment ils vont s'embrasser, etc. Je trouvais ça plutôt.
Non, mais toi, t'aimes bien le côté.
Rappeler mes années.
Quand t'étais jeune, dans les années 50. Ouais.
Meilleure période pour être jeune, t'as bien choisi.
Ah, j'aurais adoré.
Bah, évidemment, c'est Souchon qui a raison.
Arrêtez de le regarder, j'ai con.
Oui, merci, les gens savent.
Les gens.
Ils ont à ma voix, ils comprennent bien que tu ne peux que mentir.
On ne sait jamais avec toi.
Bon, Fabrice, tant que tu parles.
Eh bien, non. Et alors.
Pour le regarder.
Mais moi, je ne suis jamais déçu car je ne regarde que des choses qui vont me plaire. Non, en fait, j'en ai déjà parlé, c'était la croisée des chemins, la croisée des...
Alors, attends, je peux dire un truc?
Ouais.
Quand on était dans la rue tout à l'heure, il m'a dit, comment elle s'appelle cette série déjà? J'ai dit, La Guerre des Mondes? Non, c'est pas ça.
Ouais,
la Croisée du Monde?
J'ai dit, non, c'est pas ça.
Il me dit, attends, je vais regarder sur Internet. Il me dit, La Croisée des Chemins. Je suis, ça me dit rien.
La Croisée des Mondes, alors.
La Croisée des Mondes, donc. Mais j'en ai déjà parlé.
Dis-nous ce que c'est.
J'ai trouvé ça très mauvais. C'est l'adaptation.
Mais t'en as déjà parlé de tout connaître ensemble.
Tout à l'heure, tu vois que tu m'écoutes pas.
Ah, bah non, c'est
ça, écoutez les gens dans le casque qui te disent,
j'ai la réussite, je peux pas tout faire.
Donc ça n'a pas été vraiment une déception, j'exagère parce qu'une déception c'est quand on attendait beaucoup et que je n'attendais rien, donc finalement je suis jamais
très. C'est une très bonne philosophie, n'attends rien, la vie te donnera tout, c'est magnifique.
C'est pour ça qu'il aime les feux de l'amour. Hein.
J'ai pas trop écouté ce que t'as dit, mais c'est pas grave.
Ne rebondis pas, ne relance pas.
Avec
l'eau, écoute-le en replay, c'est super.
Virginie, t'as été déçue par un truc, Virginie, ou pas?
Ah ouais, une escroquerie sans nom, la Utopia. Et voilà, regardez l'effet qu'un esprit libre a sur la société. Vous voyez, donc, bah oui, non, mais parce que déjà, on nous vend, oh là là, on parle des adolescents comme on n'a jamais parlé des adolescents. On va pas nous faire ça tous les ans. Il y a eu comment il s'appelait là, Skins. T'as eu Larry Clark avant, qui faisait des films au cinéma qui choquaient tout le monde. Enfin bon, je veux dire que des adolescents s'envoient mal en l'air et se droguent. Merci. Oh, c'est vrai qu'on a attendu 2019 pour le savoir. Avant ça, on ne le savait pas. Donc, en plus, la réal qui est censée être magnifique, je sais pas quoi, hyper léchée. Tu dis bah non, hein, en fait il a placé sa caméra, il a foutu de la pluie et des néons la nuit, effectivement, ça même quand tu sais pas faire un cadre, ton image elle est belle, hein. C'est quand même un truc pour débutants quoi. Bon, voilà, et donc bon bah c'est des enfants.
À l'intérieur de moi il y a des loopings arrière.
Voilà, donc après ce que je peux dire c'est que bon bah elles sont mignonnettes comme toutes les autres d'avant étaient mignonnettes, on verra qui fait carrière, on va pas apprendre leur nom tout de suite.
Ah, Zendaya.
Non, elle a 60 millions d'abonnés, ça fait pas une carrière en fait.
Ah non, non, c'est son talent qui ferait une carrière.
Pour,
ah, si,
pour
tu
l'instant,
déconnes,
elle vend du thé sur internet.
On est d'accord que tu nous parles de Euphoria.
Euphoria, ouais. C'est quoi que j'ai dit?
T'as dit Utopia.
T'as dit Utopia.
Bon, c'est pareil. Donc voilà, j'étais extrêmement déçue. Bon, les ados vont mal, c'est le principe de l'adolescence, c'est très compliqué, les gens sont pas gentils, 13 Reasons Why, enfin bon. Bref, c'est dur de grandir. Oui, les chouchous, c'est dur, mais on s'en sort, ça s'appelle vieillir, ne vous inquiétez pas, faut juste attendre que ça passe.
Et elle est
restée vivante jusque-là.
Voilà. Non, c'était mieux Glee, hein, ça je peux te le dire.
Bon, moi je propose de te laisser avec ton avis.
Qui est fou, bien sûr.
On a tous mal en entendant ça.
On a tous mal.
Ah non, si. Fabrice n'a pas. Jean-Fabrice, Georges, j'ai jamais mal.
Je t'ai pas déçu, parce que
t'as pas aimé.
Si, je suis un peu d'accord. Non, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais je me suis dit, et alors quoi de neuf sous le soleil quoi.
Non, mais vous êtes fous.
Ah oh, waouh. Wow.
Ouais. Je suis désolée, Hélène réglait déjà ce genre de problème avec Nicolas à la cassette. Donc va falloir arrêter maintenant, parce que vraiment. Même Nathalie se droguait. C'est vrai qu'il y avait déjà de la drogue chez AB Productions. Faut arrêter de penser que
c'est vrai qu'en termes d'acting, Hélène Rollès, elle est.
Elle est transsexuelle.
Ils n'ont pas retenu son nom.
Excuse-moi, mademoiselle Lopez.
Hélène Rollès n'est pas transsexuelle. Je ne suis pas d'accord. Elle ne fait rien. Avec docteur, je ne sais pas quoi.
Non, mais surtout, Hélène Rollès a une carrière que l'autre, là, comment que tu l'appelles là.
Attends, pardon, excuse-moi.
Non, mais elle a une carrière deux fois plus grosse que l'autre.
J'étais
l'autre, elle, ça fait 5 minutes qu'elle est là. Non, on verra si dans 30 ans, elle tourne toujours avec Jean-Luc Azoulay.
J'étais très, très fan de Hélène Rollès. Mais à quel moment elle a une carrière?
Bah, ça, c'est une phrase à retenir aussi.
Mais non, mais ça fait 30 ans qu'elle est à l'antenne. Elle a une carrière, Hélène. Mais
c'est
carrière.
Moi ah, si, c'est moi.
Alors.
C'est les séries. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Que Premier Baiser, c'est pas une série, mais ça va pas.
Si, c'est une série.
Que Hélène et les garçons, c'est pas une série.
On est parti de Euphoria.
Eh ben, je viens de comparer Zendaya déjà, il y a 25 ans, à l'époque d'Hélène Rollès. À la cafette, ils avaient des problèmes de cocufiage et de drogue, traités certes sous le prime AB Azoulay. Si Nathalie se droguait, moi j'en me souviens très bien. Mais attendez, il y a même eu peur que Nicolas ait décidé. Mais bien sûr que si. Mais enfin, quand. Mais alors, je me lève. Nicolas a trompé Hélène avec Nathalie en l'embrassant. Mais non, parce qu'à un moment donné, Nathalie, Nicolas a même dit il avait peur de faire un test de dépistage. C'était hyper moderne. Alors arrêtez avec
tu fais flipper
là. Non, je suis regardé vachement quand même parce que
j'adorais.
Je vois quand
tu... Ah ouais. Mais j'adorais.
On fera une spéciale Hélène et les garçons.
Merci.
Je promets que
mais
ça va arriver.
Mais tu la feras toute seule parce que visiblement
mais
tu connais.
Juste bien. Avant, on ne parle plus jamais ni de Hélène Rollès, ni de Hélène et les garçons, ni de Cri-Cri d'amour, ni de rien du tout, jusqu'à ce qu'on.
Un jour, je suis sortie avec un des acteurs. Tizi, je vous raconte.
On ne veut pas savoir. Céline, et tu as deux minutes devant toi. Si tu as une série, non, t'as pas de série qui t'a déçu.
Non, j'étais pas prêt à tout ce qu'on vient de m'entendre sur Hélène.
Mais je veux que cette émission s'arrête en fait.
C'est l'effet de Closa.
Deux minutes et on va tous se coucher quoi.
Maniaque. J'ai rien compris, Maniaque, je suis pas rentré dedans. Je une série ça, Netflix ouais. Avec Jonah Hill et Emma Stone, et j'ai regardé un ou deux épisodes et je ne comprenais pas où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait me vendre, ce qu'il voulait provoquer comme émotion en moi, donc je me suis fortement fait chier et on n'est pas allé au bout. Voilà.
Parce que tu vois beaucoup de on.
Et ouais. Ça, on.
Tu regardes jamais les séries tout seul, toi, en fait.
Si.
C'est un truc que.
Si, pendant la pause du midi. La pause du midi, c'est mes séries à moi. Ah. Mais le couple, parfois, tu vois, fait.
Jackie
que...
et Michel.
Mais en anglais, j'en suis à la saison 4.
Jackie et Michel.
Saison 4. Voilà, donc,
il y a également un débat, je pense, mais on va voir. On va y réfléchir encore. Bon, les enfants, c'était super de vous avoir ici.
Ah,
merci.
C'est bien. Tu nous réengages ou pas?
Ouais. Bah, il faut que je discute avec la régie. Ils sont. voilà, je les sens.
Les visages sont mitigés.
Ils sont hésitants.
Dans l'expectative. Donc, on va essayer de négocier tout ça. Et je pense qu'on va se revoir quand même la prochaine fois. Vous n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé. Vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux.
Alors, je tiens aussi à dire que si vous n'avez pas aimé, en fait, moi, perso, ça n'engage que moi, mais je m'en fous. C'est pas la peine de me le dire. Voilà.
C'était Virginie.
C'était
Virginie. Personne d'autre ne pense ça ici. On va lire tous vos commentaires sur Virginie. Vous mettez le petit hashtag bêta série Oh My God, parce que Oh My God, c'est le nom de cette émission, au cas où c'était pas clair. Et on se revoit très, très vite, les amis. À la prochaine fois.
À bientôt.
Ciao. À bientôt. À la salut, prochaine. Salut.
Oh My God, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Éric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.